Henri Martin, pour cette troisième partie, nous aimons faire un petit peu le tour alors, de ce qu'est l'homme. L'homme, justement, lorsqu'il quitte la scène, qu'il rentre un peu dans la coulisse, qu'il a ben, par exemple, des loisirs. Alors, question peut-être un peu bébête, vous êtes maire de Port-la-Nouvelle, vous habitez d'ailleurs, je crois, face à la mer. Quand vous avez des loisirs, vous naviguez ?
Mais je navigue certainement par la pensée, parce que j'ai jamais été un grand navigateur. J'ai eu en son temps deux trois bateaux, qui étaient des bateaux de plus de loisirs que de pêche d'ailleurs, qui étaient beaucoup plus motorisés que écolo. Et puis bon, le temps manquant, j'ai abandonné ce type d'activité.
Alors, quand on est, comme je le disais tout à l'heure, maire pour la cinquième fois, c'est quand même à la fois des satisfactions, mais parfois des fardeaux lourds à porter quand même. Au niveau, par exemple, du temps de loisir, du temps qu'on a ou qui reste à consacrer à ses proches.
Je retiendrai la première partie de votre phrase, la satisfaction et la fierté, puisque je suis originaire de Port-la-Nouvelle. Mes grands-parents, côté maternel, sont des immigrés espagnols qui sont arrivés dans les années 20-25. Et du côté de mon père, c'était les sauniers, des gens qui travaillaient sur le salin. Et mon grand-père, d'ailleurs, a dirigé le salin. Alors donc, c'est une forme de satisfaction, car je me dis que tous ces ancêtres-là étaient loin de penser qu'un jour, un de leurs descendants puisse présider aux destinées de la commune. Donc c'est d'abord la satisfaction qui préside. Et puis ensuite, au niveau du temps, c'est un problème d'organisation, je crois, et de priorité. La priorité, c'est ma famille, donc ma femme. Nous sommes un couple marié, aimant, et couple sans enfants. Donc ce qui fait que le fonctionnement d'un couple comme le nôtre est un peu différent de celui des autres. Nous sommes toujours tous les deux, nous regardons tous les deux, droit dans les yeux, nous disons tous les deux. Et donc, par conséquent, ça occupe une grande place dans notre vie. Voilà, donc la première des récompenses d'une journée, au-delà des satisfactions que j'ai pu en ressentir, c'est de rentrer et de retrouver ma femme. Et puis ensuite, bon, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime les autres, c'est dans mon tempérament. J'aime les couleurs, j'aime les bruits, j'aime les goûts, j'aime la bonne chair. Et lorsque je me ménage des espaces, parce que je reste quand même épicurien, c'est assez cloisonné. Et c'est peut-être pendant justement le temps d'occupation de mes occupations politiques, puisque il y a beaucoup de déplacements en voiture, en particulier. Je vais à Carcassonne, je vais à Narbonne, je vais à Montpellier. Et pendant ces temps de déplacement, je mets à profit cette solitude, non pas pour lire, mais pour écouter la musique, par exemple. Et puis ensuite, j'ai un principe qui fait que j'arrive toujours en avance à mes rendez-vous. Soit je prépare l'entretien que je dois avoir, soit j'ai toujours un bouquin avec moi et je lis le livre que j'ai entrepris. Donc j'arrive à quand même m'évader du quotidien d'élu permanent.
Qu'est-ce que vous lisez ? Vous avez des bouquins de prédilection ou vous lisez de tout ? Parce que quand on est dans la politique, il faut s'intéresser à moult choses.
Dans le style, je lis beaucoup de revues techniques, parce qu'il faut se tenir au courant, les choses bougent. Et puis bon, je suis entouré de jeunes pétillants dans mon staff administratif. Et pour ne pas paraître pour ce que je ne suis pas, il est évident qu'il faut se tenir un petit peu au courant. Mais globalement, j'aime les romans historiques. Je suis en ce moment sur le Goncourt, le bouquin de Le Tellier, qui est L'Anomalie, qui est un bouquin remarquable, et que je vais terminer dans le week-end, je pense, et que je vous encourage à lire. Lisez-le rapidement, parce que il se situe en juin 2021. Donc, il reste peu de temps au lecteur. Je ne vous en dis pas plus. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est le destin de pas mal de gens qui sont dans un avion, un vol Paris-New York, et qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est très particulier. Et sinon, des romans historiques. Ça me permet... J'aime l'histoire, et ça me permet de découvrir l'histoire avec beaucoup plus de souplesse. Voilà. Donc, les romans historiques, c'est peuvent me faire partir aux Amériques. Je vais attaquer le troisième tome d'un livre de Jim Fergus. Jim Fergus, c'est un journaliste américain que je ne sais pas du tout, mais j'ai pour habitude d'échanger des vœux avec pas mal de monde, et en particulier mon ami Francis Sénégas, et sur une de ses cartes de vœux, il avait cité, il a utilisé une citation de Jim Fergus, qu'il faut prendre chaque jour, justement, sans rancœur, sans remords, etc. Et donc je l'ai fouillé, et il a écrit une trilogie sur les Indiens d'Amérique. Absolument remarquable.
D'Amérique du Nord.
Hein. D'Amérique du Nord. C'est à une époque où le président Grant a négocié avec un chef Cheyenne d'échanger 1000 femmes blanches contre 1000 chevaux. la guerre de sécession avait liquidé toute la cavalerie, et il lui fallait du matériel, et puis, en faisant ça, il allait un petit peu essayer de en reliant affectivement Marianne des Femmes Blanches à des Indiens, essayer de pacifier le secteur. Voilà, donc c'est l'histoire d'une héroïne qui, fille de famille, s'est retrouvée dans un asile parce qu'elle a eu des amours malheureuses avec un métayer, et qui donc, parce que le président Grant, pour trouver 1000 femmes, il n'a pas passé une annonce, hein. Il est allé ramasser toutes les prostituées, il a vidé les prisons, et il a vidé les asiles. Et était dans un asile. Voilà. Et donc c'est l'histoire de cette fille qui dure 30 ou 40 ans et son cheminement dans chez les Indiens d'Amérique. Voilà. Voilà un petit peu le sens de mes lectures qui, en étant romancées quand même, permettent de découvrir des mœurs qui sont intéressantes.
Oui, mais là c'est véritablement de l'évasion.
Ah oui, absolument.
Même si c'est historique, ça ne colle pas forcément à la réalité.
Ah,
il y a toujours une grande part de fiction.
Il faut que ce soit romancé, il faut qu'il y ait une part de fiction. Je suis parti à la cour de Vienne avec Antonin Carême, qui était le cuisinier de Talleyrand, et c'est un meurtre, c'est un couteau de cuisine, c'est une femme de cuisine qui tue un type parce qu'il était un petit peu trop pressant avec elle, mais pendant tout le cours du bouquet, on croise Talleyrand 40 fois dans les couloirs, on croise Antonin Carême, qui est un cuisinier remarquable, qui a vécu à son époque et qui a redécouvert la cuisine, d'ailleurs, à qui on doit beaucoup. Antonin Carême, ce serait aujourd'hui Bocuse, ce serait Ferrand Adria, ce serait Guérard.
Ce serait un 3 étoiles.
Même 10, il a tout inventé. Et j'ai découvert dans cette lecture, outre le fait que les mœurs de la cour de Vienne sont intéressantes à déchiffrer, et puis la personnalité de, si tant est qu'on puisse le cerner, de Talleyrand, dont Talleyrand était de Périgord, et donc on lui doit la recette du lièvre à la royale, revue par Antonin Carême, dans lequel on trouve maintenant, dans les recettes qu'on a dans la restauration contemporaine, on retrouve le foie gras et les truffes qu'avait introduit Talleyrand. Voilà.
Oui. Alors on va revenir un peu sur le côté culinaire, mais sur le plan littéraire, donc vous lisez, vous cherchez à vous évader par la littérature, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a envie d'écrire pour la postérité ou peut-être parce qu'il y a l'envie d'écrire ?
La postérité, je vais essayer de la reculer le plus longtemps possible. Nous vivons une période de notre vie, monsieur Jules, vous-même et moi-même, qui est la dernière partie du dernier quart de notre existence. Donc par conséquent, nous avons une vision à très court terme des événements. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de temps à écrire. Il faut au contraire agir et essayer de mettre en place tout ce qu'on n'a pas pu de mettre en place. Donc je me vois mal en train de donner de mon temps à l'écriture égoïste qui consisterait à transmettre ce que j'ai pu faire ou pas faire. Je suis sûr que mes contemporains sauront lire sur le terrain, à Port la Nouvelle et ailleurs, ce que j'ai pu réaliser ou faire.
Voilà, vous préfériez considérer Port la Nouvelle comme un livre ouvert sur l'action que vous aurez pu faire pendant déjà 5 mandats.
Ben en quelque sorte, et puis c'est ma façon de voir la politique, et si je devais me définir comme un homme politique, ce serait dans ce sens-là. Mais je n'ai pas grand-chose à livrer à la postérité, autre que les choses qui ont été réalisées.
Alors sur le plan culinaire, vous avez dit que vous étiez, vous aimiez la bonne chair. Est-ce que vous êtes gourmand ?
Je ne sais pas si c'est la gourmandise, je pense.
Ou gourmet au minimum.
Je suis gourmand de tout. Je suis gourmand visuellement, je suis gourmand gustativement, je suis gourmand également au niveau des bruits, des sons. J'aime la musique, j'aime les sons contemporains, les sons mécaniques. J'adore le sport mécanique. Et donc, le bruit d'un moteur de Formule 1, ça vaut une symphonie pour moi. C'est également, oui, je suis très gourmand de ça aussi. Mais bon, ça s'explique par le fait que j'ai grandi dans l'épicerie de mes grands-parents et de mes parents. Donc, petit-fils et fils d'épicier, mes grands-parents côté espagnol, c'était la cuisine en permanence, ma mère également. Et donc, si vous voulez, mes madeleines de Proust, je les poursuis maintenant, puisque toutes ces personnes de ma famille ont disparu. Et en les poursuivant, évidemment, ça aiguise un petit peu mes papilles. Et puis, j'aime autant vous dire que le père Pavlov, il fait partie de mes... Il m'habite en permanence.
Voilà, donc là, il y a vraiment un héritage, en quelque sorte. Oui. Ensuite, alors, au niveau de la vie, bon, on voit que vous avez une plaisanterie relativement facile. Est-ce que vous accordez le sens de l'humour ?
Ah oui, absolument. Et je ne voudrais pas opposer mes attitudes à celles de certains autres, mais je ne suis pas rancunier. Non, je pense que la vie est trop courte pour qu'on y perde du temps à s'agacer à des rivalités entre les uns et les autres. Et l'humour, c'est vrai, et je crois que c'est ce qui manque un petit peu dans les temps que nous traversons. Et c'est vrai que les gens du spectacle sont châtiés par le fait de ne pas pouvoir produire ni de pièces de théâtre, ni de spectacles, etc. On peut le comprendre parce que l'humour fait partie de notre quotidien. C'est notre troisième respiration, l'humour. Je pense que c'est très important. Et je ne m'en suis jamais départi. Et je suis issu d'une famille où il y avait des gens qui n'étaient pas du tout marrants et où, par contre, d'autres étaient ultra marrants. Et c'est vrai que c'est vers eux que penchaient le plus mes goûts de fréquentation.
Oui, et pourtant, quand on est maire, on est au pouvoir. C'est quand même un pouvoir incontestable et même parfois assez important, le pouvoir du maire. Est-ce que vous pensez que l'humour et le pouvoir vont bien ensemble ?
Il faut se forcer à faire cohabiter. Vous savez, je veux dire, certaines journées qui s'achèvent, lorsque vous avez rencontré 2, 3, 4, vous avez 4, 5, 6 rendez-vous de personnes qui viennent vous exprimer leur détresse, des personnes dont vous savez que vous ne pouvez rien faire pour eux, hormis les écouter, hormis qu'ils partent en sachant qu'ils ont été peut-être même entendus, c'est pas très, très marrant. Et l'humour n'a aucune place à ce moment-là dans le quotidien. Mais par contre, le fait d'apporter aux autres et de les réconforter, ça fait partie un petit peu de notre boulot. Et derrière, il paraît normal qu'on puisse avoir des moments de décompression.
Oui, mais écoutez, c'est un petit peu sur cette décompression qu'on va terminer cette émission, troisième partie. Donc merci Henri Martin de vous être ouvert un petit peu comme un livre d'histoire ou pas, pour ce 11e Radio Barque. Pour le prochain, alors, pour l'invité, il y a encore des incertitudes, puisque la situation est telle qu'on n'est pas toujours sûr d'avoir des invités qui pourront honorer les rendez-vous. J'avais prévu le directeur du cinéma de Narbonne, M. Fayol. J'espère qu'il pourra être présent, mais ça n'est pas encore sûr, d'autant plus que les nouvelles sont très mauvaises à ce niveau-là, puisqu'on sait que les cinémas ne réouvriront pas de sitôt. Nous vous tiendrons au courant, bien évidemment, pour le prochain invité. Et puis nous marquerons la pause de Noël, cela va de soi. Nous repartirons, bien sûr, en janvier avec des invités qui sont déjà prévus. Madame Ménard, députée de l'Hérault. Et puis, alors, à propos de cuisine, Lionel Giraud, chef étoilé narbonnais. Merci Henri Martin, merci aux auditeurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.